la première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
La volonté de célébrer la collection, certainement. Il y a aussi, et ça ils vous en parleront sans doute mieux que moi, un programme architectural qui était contraint, évidemment, contraint budgétairement, voilà. Et là, tout a été, l'enjeu du concours d'architecture qu'ils ont remporté, bien sûr, était là lié à toute une série de contraintes voilà, imposées par le programme.
Et à une fois, j'entends... Je dis, qu'est-ce que c'est que ça ?
La prison change.
Très agréable avec le long des étangs.
On appelle une maladie honteuse.
Vous allez où ?
11e.
Ces lieux nous parlent.
Architecture. Liège, Paris d'Avrois. Mat Musée. Avec Brigitte Massard, Aloïse Beguin et Carla Flange. Et la voix de Bruno Gérard, interviewé à la Pommerée en 2017.
L'objectif de l'atelier, ce n'est pas de former des artistes. Hein. L'objectif de l'atelier, c'est bien d'essayer de garder des acquis au maximum, quand ils arrivent. C'est de les développer, si c'est possible. Et puis, bon, bah, c'est qu'ils passent aussi un bon moment à l'atelier, qu'ils soient heureux d'être à l'atelier. Après, si il y a quelque chose qui se passe et affinité, pourquoi pas, mais c'est pas l'objectif, quoi. Parce que c'est vrai que du coup, comme ici à l'atelier, il y a quand même à peu près 35 artistes qui travaillent, on pourrait croire qu'on est dans une forme d'élitisme, mais c'est vraiment pas le propos et c'est vraiment pas, enfin je vais dire, une obligation. Viens qui veut et presque quand il veut. Ça veut dire que de semaine en semaine, ils font leur programme. Puisqu'ici, il y a 35 ateliers différents.
Au-delà de la collection, leur souci, et là aussi on retrouve d'une certaine manière l'idée de la situation, si vous voulez. Leur souci et leur réussite a été d'inscrire leur rénovation architecturale dans la dynamique historique d'un lieu qui connaît aujourd'hui son troisième bâtiment. Le Trinco, et c'est une des choses qui nous passionne, existe ici, exactement au même lieu, au Parc d'Avrois, depuis 1880. C'était d'abord un bâtiment extraordinaire, couvert d'une sorte de grande résille d'acier, orné à l'orientale, dans le style des années 1880, et dont la résille de polycarbonate aujourd'hui visible, à laquelle elle répond, si vous voulez, comme par une sorte de clin d'œil historique. Entre les deux bâtiments, celui-ci, entre celui de 1880, il y a le bâtiment des années 60, dont les architectes, vous le constatez, ont voulu conserver la structure, là aussi pour assurer une espèce de poétique de la situation et une continuité d'intention.
C'est ma responsabilité, vous ne pouvez pas rentrer.
D'accord,
vous devez attendre les architectes. Vous pouvez vous asseoir là et dépenser de l'argent.
Les architectes ont-ils visité la collection ?
Ah bien sûr. Non seulement ils ont visité la collection, mais il leur est arrivé déjà par le passé de réaliser l'une ou l'autre exposition avec la collection. Donc ils connaissent très très bien la collection. Et c'est ce qui rend possible, évidemment, leur engagement aux côtés de la collection, avec la collection, si vous voulez, c'est ce qui rend possible ce partenariat très heureux que nous établissons avec eux.
Architecture. Liège, Paris d'Avrois, Mat Musée. Avec Brigitte Massard, Aloïse Beguin et Carla Flange. Et la voix de Bruno Gérard, interviewé à la Pommerée en 2017. Architecture, Mat Musée par Thierry Genicot. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.
Thomas vient à l'atelier depuis 4 ans à peu près, comme Carole. Donc je vais dire, c'est la nouvelle génération qui arrive à l'atelier avec des gens qui sont ici depuis 30 ans.
Ce bâtiment des années 60 était, lui, plutôt marqué par le béton. Autre élément constructif, mais cette fois de la modernité des années 60. aujourd'hui avec un matériau composite comme le polycarbonate alvéolaire, si je ne me trompe pas. Nous avons aussi un troisième élément constructif qui incarne notre modernité, notre contemporanéité.
Donc c'est ça qui est génial, parce qu'il y a ce foisonnement, ce renouvellement. Et puis, bon, ben voilà, Thomas, on sent le bonheur de dessiner, Carole aussi, mais il y a des gens qui viennent aussi depuis 2 ans, mais qui vont exploser plus vite, quoi. Vous voyez, par exemple, ici, Thibaut Seigneur, ben, il y a déjà une maturité, je vais dire, dans son dessin, qui est évidente.
En même temps, les trois lieux, ben, les trois bâtiments plus exactement, qui se succèdent ici depuis maintenant bien plus d'un siècle, sont tous dévolus, l'ont tous été à la sociabilité, à la rencontre, et pourquoi pas à la joie et à la fête de célébrer ensemble des questions qui relèvent de l'art.
Alors après, avec cette grande différence peut-être des artistes dits contemporains,
Bruno Gérard,
c'est l'intentionnalité. Hein. Est-ce que Thibaut, en faisant ce travail, a intention de faire œuvre ? Je crois pas. Mais il n'empêche que nous, en regardant, ouais, bah on est quand même scotché.
Carla Flange.
Programmation muséale à laquelle nous réfléchissons maintenant depuis plus d'un an et demi, qui repose autour d'une notion que l'on espère pleine d'énergie et de dynamisme, que nous appelons les arts situés.
Quand je regarde son travail, ça me fait penser un peu au jeu Oxo. Vous savez, quand on est à l'école, il y a les ronds, il y a les X, on fait des Oxo. Bon, il faut savoir que le rêve de Thibaut, ce serait de devenir comptable. Donc il y a des chiffres, il y a des calculs. Alors après, effectivement, au niveau des couleurs, il travaille le marqueur. Donc il faut savoir que le marqueur, ça s'efface à la lumière. Donc ici, on emploie des marqueurs spéciaux qui sont des marqueurs acryliques. C'est de la peinture acrylique. Mais du coup, il y a moins de choix dans la variété des couleurs. C'est une boîte de 10 couleurs, il n'y a pas plus. On ne s'est pas trouvé plus. Et quand on regarde bien son travail, le marqueur permet des transparences, généralement. Et ici, on est bien sur la peinture acrylique. Donc ça se chevauche.
Pourquoi les arts situés ? Il est extrêmement difficile de qualifier le type d'art qui sera exposé ici, le type de production que nous célébrons et que nous privilégions, à savoir des œuvres d'art réalisées par des artistes handicapés mentaux. Vous le savez, comme moi, bien des désignations pour essayer de qualifier ou de caractériser ce que l'on peut appeler de manière générale les arts aux frontières de l'art ont été inventées, expérimentées. Elles ont toute leur histoire et leur intérêt. Je pense à l'art brut, par exemple. Avant l'art brut, je pense à l'art des fous. Je pense tout aussi bien à ce qu'on a appelé après l'art outsider. L'art différencié aussi dans le cadre du MAN. Bon, toute une série de désignations, je ne vais pas les commenter chacune ici, mais qui ont toutes pour caractéristique commune que les œuvres résistent à la catégorie auxquelles elles voudraient correspondre.
Donc, dans la réalisation de son dessin, en commençant le matin et en finissant le soir, eh bien, il peut être sur le matin avec une intention, et puis finalement la journée s'est passée et l'après-midi il peut avoir varié dans son intention. Mais par exemple ici on voit un autre dessin où finalement il travaille avec des tons froids, hein, le mauve et le vert. Eh bien il y a toute une série de calculs, et pour lui il faut que ce soit précis, et il demande s'il ne se trompe pas. Hein, donc il y a cette référence, mais il va pas parler du côté plastique des choses, quoi, que ce soit beau, pas beau, c'est pas son truc, quoi, hein. Bon, voilà. Après, c'est nous, spectateurs, le regard qu'on porte et l'émotion qu'on peut avoir par rapport à cette œuvre ou à d'autres, évidemment. Et c'est ça qui est intéressant. Bon, après, il ne faut pas faire des généralités. C'est vrai que Thibaut, je pense qu'il n'a pas intention de faire œuvre, mais vous allez avoir d'autres personnes ici avec une stature d'artiste qui, eux, ont bien intention de faire œuvre et qui ont une réflexion... Attention, je ne dis pas que Thibaut n'a pas de réflexion, mais une réflexion plastique par rapport à leur travail. Donc c'est ça qui est riche aussi dans l'atelier, c'est toute cette variété de regards par rapport à leur création.
L'idée qui a été la mienne est de partir plutôt de la collection.
Quand on travaille dans une académie, dans une école d'art, c'est exactement la même chose. C'est que parfois, vous avez des diamants bruts, quoi. Vous avez des gens, ils arrivent et c'est tellement évident. C'est là où notre travail, il est quand même de... Bah oui, tu es une artiste, mais enfin... pour être une artiste. Et exigences, il n'y en a que trois. Un, c'est du travail. Deux, c'est du travail. Trois, c'est du travail.
Si je dois définir en quelques mots la collection, c'est une collection constituée d'œuvres d'art réalisées par des artistes handicapés mentaux en contexte d'ateliers. En ce qui nous concerne, les ateliers, ce sont du CREAM qui existe depuis une quarantaine d'années, mais c'est aussi dans le monde entier des ateliers qui nous ont permis de nourrir au fil des 40 années qui viennent de s'écouler une collection extrêmement riche.
Donc voilà, on a quelque chose à la base, on a une facilité, mais c'est pas pour ça qu'on devient automatiquement artiste. Et là, Isabelle, elle est arrivée chez nous toute jeune, hein, 21 ans, enfin je sais pas, aujourd'hui elle en a 25, 26, donc ça fait 5 ans qu'elle vient. Et dès le départ, c'était évident, quoi, évident. Et d'ailleurs, aujourd'hui, enfin la semaine prochaine, elle expose dans un musée à Bordeaux où il va y avoir 95 dessins. Puisque là, elle travaille aussi au crayon gris et au marqueur de son œuvre. Mais voilà, il faut lui dire attention, parce que, évidemment, si à 25 ans, à vous, on vous dit vous êtes un génie, bah ouais, on a tendance à le croire, quoi. C'est logique, quoi. On peut dire ça de tous les êtres humains. Donc voilà, de temps en temps aussi, notre boulot, c'est bon, attention, c'est génial, mais...
Karl Avlange, ce discours que vous me tenez, vous l'avez dit aux architectes?
Bien sûr, et là, c'est aussi quelque chose dont je me réjouis très profondément, c'est la relation de confiance partagée, de collaboration, qui nous lie au couple d'architectes Beguin-Massard, qui ont réalisé un outil ici absolument merveilleux et parfaitement adapté, enfin merveilleux, excusez-moi, je laisse parler mon enthousiasme, mais parfaitement adapté à la politique muséale que nous visons. Au reste, les scénographies que nous sommes en train peu à peu de réfléchir, nous y associons à Louise Beguin et Brigitte Massard, qui sont les premiers à connaître le lieu de l'intérieur et qui seront donc les avocats du bâtiment et les conseillers idéaux pour nous permettre d'éprouver et de construire une véritable scénographie digne de ce nom. C'est la ville de Liège qui est maître d'ouvrage de ce bâtiment, que ce soit ici l'occasion, une fois encore, de saluer le soutien inconditionnel dont nous bénéficions de la part de la ville de Liège, de mettre notre enthousiasme, notre ambition, notre collection au service d'une politique de la ville qui rencontre, me semble-t-il, très, très fortement les autorités urbaines et notamment les chevignats de la culture, par la voix de son échevin Jean-Pierre Hupkens. Voilà, justement, Aloïs Beguin, qui nous rejoint, l'architecte, donc.
Enchanté.
Bonjour.
J'ai dû arriver.
Voilà. Bonjour, Aloïs.
Raccrochons, je parle seulement. Ouais.
Voilà, on vient d'échanger quelques mots sur le contenu, le programme, et comme nous disions à l'instant aussi, l'objet même de cette émission, c'est évidemment l'architecture. À quel point nous étions heureux de pouvoir travailler dans un régime de pleine collaboration, et notamment pour la préparation des expositions du musée, où et Aloïs et Brigitte se mettent très amicalement à notre disposition pour nous transmettre en quelque sorte les clés symboliques et intérieures du lieu.
D'habitude, la conception des musées est relativement rigide. C'est souvent des murs sur lesquels on accroche, mais ici, en fait, il n'y a pas de mur dans ce musée. Un dispositif de panneaux qui vont être suspendus.
Et puis, il y a des belles histoires. Par exemple, là, Oscar Haus, dont on va faire la première monographie de la Fondation, c'est un monsieur qui, toute sa vie, a travaillé dans une usine. Bon. Et le soir, il venait à la Pommeraye, à l'internat, pour vivre sa vie en dehors de l'atelier. Bon, donc, le dessin, pour Oscar, n'a jamais existé. Et puis, finalement, c'est à sa retraite, qui, d'un seul coup, il n'avait plus rien à faire. Il venait, et lui, c'est une belle histoire, quoi, parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, comme tous les retraités. Et il venait, il passait à l'atelier dire bonjour, et puis c'est tout, il repartait. Et puis il restait 5 minutes, et puis 10 minutes, et puis il est resté 1 heure. Puis je mets un jour, je dis, Oscar, tu prendrais pas des crayons? T'as pas envie de faire quelque chose? Et ça a commencé comme ça, quoi.
La première exposition monographique qui accompagnera l'ouverture du musée sera celle de Jean-Michel Wilbeau, qui est un artiste de la Pommeraye, ce centre animé depuis maintenant plus de 30 ans par Bruno Gérard et qui se trouve être à Belœil, dans le Hainaut, l'alter ego historique de Luc Boulanger, fondateur ici du CREAM.
Donc, je vais dire sa carrière artistique maintenant. Maintenant, on sait que c'est une carrière artistique. Mais à l'époque, il a commencé à poser sa première trace sur une feuille. Il devait avoir 65 ans, hein, quelque chose comme ça. Oui. Et puis, pendant 10 bonnes années, il a travaillé. C'est devenu sa passion avec l'accordéon, parce que c'est un musicien.
Jean-Michel Wilbeau est un artiste qui est originaire de Valenciennes, atteint de handicap mental et de graves difficultés psychiques, et qui fréquente depuis 20 ans maintenant l'atelier de Bruno Gérard, et qui a produit une œuvre extrêmement singulière, constituée de visages ou de figures animales, qui semble se décliner autour d'un même patron formel, auquel s'ajoute alors quelque chose d'extrêmement intéressant, qui sont des textes. Ces peintures sont souvent accompagnées de textes, ce qui est fréquent dans ce type d'art. Et en plus, tout récemment, alors qu'il peignait sa dernière toile, il a arrêté de peindre maintenant, sans doute atteint par trop d'anxiété ou trop de souffrance psychique.
Ce sera un outil qui sera complètement flexible et modifiable à souhait par les utilisateurs. Je pense qu'on avait capté dans l'état d'esprit du CREAM qu'ils avaient ce goût de la liberté, un peu de la pertinence dans les expositions. Et donc, on n'avait pas envie de leur faire un espace figé et conventionnel. Donc, on leur donne un ensemble de composantes, des tables, des panneaux, des suspensions, un éclairage qui sera modulable, etc. Et donc, on espère que le paysage changera au gré de leurs envies, et à mesure des expositions.
Pour assumer la réalisation de sa dernière toile, il a écrit sur des feuilles de papier volante 70 pages. D'une écriture absolument somptueuse, singulière et somptueuse. Et au moment où nous vernirons cette exposition monographique, le 19 mars 2020, ces textes seront lus par un acteur qui s'appelle Thierry De Villers et accompagnés en musique par un musicien que vous connaissez qui est Steve Houben, et qui se réjouissent l'un et l'autre. Et nous nous réjouissons tous de pouvoir donner voix, si vous voulez, à cette parole singulière, fragile elle aussi, comme une sorte de métaphore et d'emblème de l'ensemble du projet que nous voulons réaliser.
Bruno Gérard.
Il nous prouve aussi, au travers de tout ça, comme Paul Duhem, comme Martha Grenenoël, si ça vous parle, que la vie n'est jamais finie, quoi. Vous pouvez avoir une vie de galère, et puis à 60 ans, vous prenez un crayon, et vous êtes riche de toute votre vie, de tout ce que vous avez à dire. Et pendant 10 ans, 15 ans, Paul, c'est ce qu'il disait, c'était ma deuxième vie. C'est ma deuxième vie. Et Paul Duhem, en 10 ans, il a fait 6000 tableaux à peu près.
Brigitte Masseur.
C'est un projet qui a mis beaucoup de temps pour se mettre en place, hein, une dizaine d'années maintenant. Et le premier plaisir, c'est de voir qui sort de terre. Pour nous, les architectes, c'était pas gagné d'avance. Et les seconds et troisième et quatrième plaisirs, ce sera de voir vivre le bâtiment le mieux du monde.
Et de voir qu'il y a une équipe qui se structure au niveau de l'institution, il y a une équipe qui se structure pour tirer parti de cet outil, parce que c'est vrai qu'au départ, il faut quand même rappeler que si ce projet se fait, c'est quand même suite à une conviction réitéré du CREAM pendant, je crois, une dizaine d'années, qui demandait à pouvoir disposer d'un outil muséal d'une plus grande envergure que ce dont ils disposaient auparavant. Hein. Ils ont d'abord fait tout un travail par rapport au bâtiment. Ils avaient notamment fait une sorte de soirée débat qui avait regroupé une cinquantaine de personnes à l'époque, mais ça remonte, à mon avis,
une dizaine d'années.
Une bonne dizaine d'années.
Une douzaine d'années, peut-être.
Ils avaient fait un débat pour soulever la question, faut-il garder ce bâtiment qui a du charme, mais qui est à moitié pourri. Et c'était assez amusant, parce que la soirée a été fort, fort intéressante en termes de débat. C'était pour la plupart des gens du milieu culturel, architecture, musée et autres, hein, je pense. Enfin, des personnes qui avaient été invitées par leur relation probablement avec le CREAM un petit peu. Et en fait, la grande majorité des gens disaient ce bâtiment doit être conservé, c'est un bâtiment repère pour les villageois, c'est un bâtiment qui a un caractère particulier, un charme particulier. À partir de ce moment-là, ils ont monté un dossier pour installer le musée ici dans ce bâtiment avec une programmation. Ils avaient écrit des textes qui étaient vraiment intéressants pour les auteurs de projets qui étaient appelés à faire le concours. Ils sont arrivés donc à mobiliser la ville de Liège, qui est le propriétaire du bâtiment, à monter un dossier de rénovation et d'extension sous forme d'un concours.
Et c'est énorme, c'est une œuvre, hein, et qui a duré 10 ans. Voilà, c'est là où c'est passionnant, quoi. Là, on a des gens qui, finalement, depuis 30 ans, travaillent à l'atelier. D'autres sont venus pendant 20 ans. Il y en a qui ont arrêté, ils avaient fini.
Le CRIAM a fortement participé à l'élaboration du cahier de charge du concours, donc, comme je le disais, avec des textes qui donnaient le fond, la substance du projet. Les documents d'avis de Viège étant plus contractuels, plus administratifs, mais enfin, les deux se complétaient. Ça est l'enjeu de ce bâtiment icône dans le parc d'Avroy. Voilà, c'est comme ça que l'aventure est née. Mais il faut reconnaître plusieurs équipes du CRIAM qui se sont succédées et qui ont travaillé sur la constitution, par exemple, d'un catalogue raisonné de l'ensemble de la collection, qui a été un premier pas pour avoir la reconnaissance par la communauté française, puis l'engagement à un travail didactique, un travail de conservation, de valorisation, de communication, etc., qui ont permis finalement qu'ils obtiennent une classification en tant que musée, communauté française, et l'accès à des subsides.
Le parti de garder le bâtiment étant acquis, on a autopsié un peu les maladies dont il souffrait. Et on en est venu à faire la proposition au niveau du concours d'une enveloppe qui l'englobait complètement et qui, de par le volume qu'elle accordait au bâtiment premier, suffisait à doubler les espaces comme il était demandé dans le cahier des charges. Et donc, on en est aussi venu à choisir ce matériau qui est le polycarbonate alvéolaire. Pour plusieurs raisons. D'une part, pour des raisons thermiques, puisque c'était un des enjeux de ce projet, mais aussi pour la très belle lumière qu'il diffuse à l'intérieur du bâtiment. La lumière du jour est à peine assombrie. On tenait à cette sorte d'écran qui sinuait autour du bâtiment et qui transforme le bâtiment un peu en lanterne. De jour comme de nuit. De nuit, on se réjouit de le voir éclairé, pour saisir le rayonnement qu'il va produire sur la ville. On ne souhaite pas que ce soit trop dur, mais qu'il y ait un faible halo, nous...
Lumière.
Oui, oui, c'est ça, nous satisferait beaucoup.
Comme une lanterne orientale déposée,
oui, voilà.
Au cœur du parc
voilà.
Oui, j'allais dire lanterne magique ou aura.
Oui, une aura, oui, on peut dire comme ça, mais on attend les avis des promeneurs du parc pour...
C'est vrai qu'une réflexion importante, c'est la présence de ce bâtiment au milieu du parc. Ce n'est pas si courant. On a connu aussi ce parc un peu abandonné, voire un peu,
n'avait pas trop bonne
réputation. Et donc, on se dit que, évidemment, le maintien et l'épanouissement d'une fonction ici au cœur du parc, c'est très important.
Aloïse Beguin.
Les musées doivent... entrer dans la vie du quotidien, où en quelque sorte le musée ne devrait plus exister. Hein, c'est l'espace dans lequel on vit devrait être tout simplement considéré comme un réceptacle de toutes sortes de choses intéressantes, interpellantes, formatrices, émouvantes. Oui. Voilà. L'idée de mettre le bâtiment existant sous cloche, elle est tout à fait concrète ou rationnelle, c'est-à-dire c'est de pouvoir considérer que tous les espaces, que ce soit ceux du bâtiment existant ou les nouveaux espaces, sont mis à même enseigne d'un point de vue de leur performance thermique. Au-delà de ça, c'est aussi une idée de protéger un morceau d'histoire avec ses traces. On déplore d'ailleurs un peu... finalement, de perdre parfois un peu des traces. On se demande, est-ce qu'on ne devrait pas garder certaines choses complètement brutes de fonderie qui évoquent vraiment l'histoire du bâtiment. Il y a quelques petites choses. Comme ça, c'est vrai qu'on entre dans le bâtiment, on découvre les murs en moellons. Donc on est étonné parce que le bâtiment de premier abord peut paraître peut-être un peu hermétique. Et puis, dès qu'on entre, la sensation se transforme complètement parce que on est surpris, on entre, mais on est dehors, puisqu'on voit un bâtiment, et on est dans une lumière diaphane diffuse. Donc c'est aussi une des qualités de ce matériau qui est translucide, qui est constitué de couches transparentes et de couches opalines, et qu'il y a 10 couches de polycarbonate, et donc ça crée une sorte de diffusion de la lumière très efficace en fait. Hein. On a 30% de la lumière extérieure qui passe à travers ce matériau. Les ultraviolets sont filtrés, ce qui est important puisqu'on est dans un musée. Mais le côté diffus de la lumière fait qu'on est vraiment dans une pleine clarté, quoi. L'objectif, c'était aussi de faire fonctionner les espaces d'exposition le plus possible en lumière naturelle, donc avec des lumières qui vivent. C'est la raison pour laquelle on a choisi aussi ce matériau qui est diffus mais qui est protecteur en même temps. C'est un matériau qui est un pur produit industriel. Ça consomme peu de matière, c'est 5 kg par mètre carré. C'est tout à fait recyclable et la façade de ce bâtiment elle pèse 5 tonnes. 5000 kg, c'est pas grand-chose. C'est une façade de 1000 mètres carrés. En fait, c'est l'équivalent de 3 paquets de briques que vous pouvez voir. Et pour construire une maison, il en faut 15 ou 20. Et ici, pour un bâtiment de 2000 mètres carrés, on a 5 tonnes de matériaux. Donc c'est vrai que c'est une matière issue de l'industrie pétrochimique, là, clairement.
Michel Van Praat, magnifique aussi. Là, ça a été merveilleux parce que Michel travaillait aux ateliers de Blicky. Donc, c'est un atelier, protégé, pas très loin d'ici.
Ce n'est pas un matériau qui est naturel, c'est un matériau artificiel, mais le fait qu'il soit démontable, totalement démontable, qu'il soit recyclable, qu'il ne soit pas mêlé à d'autres matériaux, fait que la récupérabilité, la démontabilité, voilà, on doit y penser aujourd'hui, est garantie.
On peut aussi parler de ce projet comme étant très condensé. Il ne gaspille pas beaucoup d'espace dans ce parc qui reste un parc à part entière avec tous les arbres magnifiques, etc. On n'a pas beaucoup consommé d'espace. L'enveloppe entoure le bâtiment d'assez près et c'est aussi une façon de penser à l'écologie que de ne pas gaspiller de l'espace en pleine ville pour des constructions. Je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus aussi.
Oui, d'un autre point de vue, on voulait aussi un bâtiment qui ait une certaine compacité, qui soit évident au niveau de l'usage. Donc pas de recoins, pas de développement compliqué des bâtiments avec des zones qui sont souvent mal appropriées, etc. Donc voilà, il est très compact. Et le seul espace extérieur, finalement, c'est l'espace qu'on a appelé le champignon. Une grande colonne qui porte un plateau avec une salle au-dessus, comme un présentoir à gâteau.
Cette halte dans le cœur d'Avrois, du parc d'Avrois, où on pourrait justement s'arrêter et cultiver à la fois la convivialité, mais aussi l'altérité, je pensais récemment, tant dans les œuvres exposées par le musée, mais aussi par le fonctionnement du café, qui est un café qui fonctionne avec des entreprises de formation par le travail. Il y a une très grande diversité de public et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux dans les villes.
On est tenu à des missions de protection, protection climatique, protection atmosphérique dans le sens climatique, mais aussi dans le sens de créer au cœur de la ville un espace de méditation.
D'arrêt.
Il vivait ici. Et tous les matins, je le voyais en train de nourrir les ânes, parce qu'il adore les ânes, et puis il leur parlait. Et puis il venait de temps en temps à l'atelier comme ça, et un jour j'ai été voir Jacques, Puis je lui dis, tu sais, Michel, il a des trucs à nous dire, quoi. Il n'arrive pas à le dire par des mots, mais il pourrait le dire par le dessin. Il a plein de trucs à nous dire. Et là où c'était formidable, c'est que pendant 2 ans, bah, il a été mis au chômage, ou je ne sais pas trop. Et puis pendant 2 ans, il a fait un tableau par mois, 24 dessins. Où il donnait la parole aux ânes, et les ânes nous dépeignaient, nous humains. Bon, c'était pas toujours génial, hein, c'était assez dur. Mais enfin, il nous dépeignait. Et puis, 2 ans après, il a exposé au musée Art et Marge à Bruxelles et à la Création Franche à Bègles, près de Bordeaux. Et puis, quand on est revenu, il a dit, mais j'ai fini, je retourne à l'usine. Donc, ce qu'il avait à nous dire, à nous transmettre, c'était 2 ans, 24 dessins, et voilà quoi, c'est unique quoi.
Ce choix d'écriture, il est venu de toute une série de raisons, hein, comme la plupart des choix du projet d'ailleurs, hein, mais il fallait qu'on crée un porche d'entrée. On est en Belgique, entrer, passer de la drache, comme on dit, à l'intérieur. C'est pas gai, c'est pas facile à gérer non plus, donc on se dit un espace intermédiaire abrité, c'est très bien. Ça constitue un signal quand on passe sur le boulevard d'Avroy à toute allure. Tout le monde voit ce bâtiment maintenant, il est un peu étonnant comme ça, un peu hors du commun.
Notre travail, si c'est pour aboutir à cette culture-là, eh bien c'est un travail qui est hautement enrichi.
On voulait aussi créer une sorte d'étape dans ce qui sera, dans la politique urbaine, l'axe Guillemin-Pont d'Avroy. Donc il y aura une promenade qui sera aménagée. On pense que dans les années à venir, le parc d'Avroy va être soigné, va redevenir beaucoup plus attrayant avec le parcours du tram qui remplacera le parcours des bus. Et donc, on se disait, c'est bien d'avoir un petit espace de repos, d'arrêt pour les cyclistes, pourquoi pas, ils pourraient avoir un point échange vélo, enfin des choses comme ça. Et puis, il y avait aussi une chose comme ça, mine de rien, qui nous intéressait, c'était d'établir un dialogue avec le kiosque, qui est un peu étrange comme ça, hein, certains ne l'aiment absolument pas, qui est dû quand même à un architecte qui a marqué Liège, qui est Moutchen, hein, qui a fait des tas de bâtiments importants à Liège, le patinoire, l'école Asinel, des écoles, enfin plusieurs. C'est un architecte qui a compté dans la modernité. Et pour nous, c'est quand même très chouette d'être aussi à côté de ce pavillon de Moutchen. Et donc, on pensait un peu à une écriture en complicité, comme ça, un petit clin d'œil, enfin une écriture un peu en courbe.
En connivence.
Oui, voilà.
Dans le café, aussi bien que dans le musée, cette attention aux marges, au monde fragile,
c'est ça,
auquel on veut donner voix et force. Mmh. Également, tu parlais, Brigitte, de convivialité. Mmh. Nous évoquions aussi tout à l'heure l'histoire du bâtiment. Et ce premier bâtiment de 1880, dont on décrivait en quelques mots tout à l'heure, puis celui que vous emballez et celui-ci, depuis un siècle et demi, en effet, ce lieu est voué à la convivialité.
Oui, c'est vrai. Avec une notion peut-être plus sociale ici.
Absolument.
Hein, oui. Qui cultive moins les souhaits de la bourgeoisie que les souhaits des citoyens lambda.
Architecture. Liège, Paris d'Avroy, Mad Musée. Avec Brigitte Massard, Aloïs Beguin et Carla Plange. Et la voix de Bruno Gérard, interviewé à La Pommerée en 2017. Architecture. Mad Musée. Par Thierry Genicot.
Déjà, la prise en charge par les utilisateurs du CREAM et du musée, déjà la prise en charge du bâtiment, alors qu'il est toujours en chantier, ils ont envie d'y faire des choses, ils ont envie d'en parler. C'est très chouette, ça, c'est bien, parce qu'on se rend compte que pour nous, c'est très important, finalement, que le projet soit porté par tout le monde.
Production, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule Architecture.
Le maître d'ouvrage, finalement, c'est la ville de Liège. L'utilisateur, je dirais que c'est presque propriétaire, parce qu'ils occupent ces bâtiments depuis les années 80, sous forme de squat, presque au départ. Et puis ça s'est concrétisé, ça s'est légalisé, officialisé. La ville de Liège a fini par considéré que c'était très intéressant finalement d'avoir cette fonction dans le bâtiment, et donc elle avait assumé son rôle de propriétaire. Hein. Ce n'était pas gagné d'avance, ce bâtiment aurait pu être tombé en ruine et être démoli à l'orée des années 80. C'est finalement très intéressant de pouvoir le reconvertir, lui donner une seconde vie. Hein. C'est assez amusant de voir que, effectivement, au niveau de la vie du parc, il y a une sorte de boucle qui se fait entre le Trinco de 1880, dans un parc naissant, avec des arbres qui sont tout petits. Aujourd'hui, à la troisième génération de bâtiments, on se retrouve avec un parc qui est à maturité. On a la chance de bénéficier de cet environnement-là, avec le cycle de la nature qui est vraiment quelque chose qui nous dépasse, qui travaille à l'échelle des siècles. Et le bâtiment aussi qui refait une boucle un peu, revenant un peu à la légèreté des bâtiments d'origine, sans nier l'étape des années 60, cette architecture un peu Spirou et Fantasio.
Louis, alors voilà, Louis fait ces tableaux qui sont là, ou le tableau qui est ici. Donc généralement, il dépeint la ville à sa manière, avec des maisons qui sont un peu arborescent, ça devient presque des arbres, vous voyez.
Cette idée un peu d'un palimpseste, comme ça, c'est intéressant. C'est un vieux qui est déjà bien chargé avant de commencer.
Et puis, avec les escaliers, comme Montmartre à Paris, tout ça s'entrecroise comme ça. Et puis après, il va aussi partir sur des thèmes d'actualité.
Ce qui ne se donne pas immédiatement à la perception, mais qui suppose qu'on lève un premier voile d'apparence. Et effectivement, il y a dans ces couches successives qui constituent le musée et son histoire, quelque chose qui y ressemble.
Hein, il y a 4 ans, on a fait beaucoup d'hommages avec la guerre 14-18. Et il a vu beaucoup de choses à la télé, enfin voilà, ça l'a beaucoup travaillé. Et donc depuis 2-3 ans, c'est une thématique qui revient, parce que après il y a les attentats aussi, enfin voilà. Donc voilà, lui il est vraiment dans cette idée de je représente la cité, mais qu'est-ce qui se passe dans la cité et comment je témoigne de tout ça.
Au départ, c'est le fondateur du CREAM, Luc Boulanger, qui a réuni des personnes handicapées pour voir ce que ça donnait quand on leur demandait de faire de l'art, et qui en 1981 a eu cette audace, à une époque où rien de tout cela n'existait et ne pouvait paraître pertinent, d'organiser une rencontre internationale autour de la thématique art et handicap mental. Et donc s'est adressé dans l'Europe entière à toute une série d'institutions susceptibles de pratiquer ce genre d'atelier. Il a reçu des réponses innombrables, des propositions de pièces à exposer très très nombreuses, sans savoir où les exposer. Il y avait ce bâtiment laissé à l'abandon, en pleine déshérence. Il a demandé l'autorisation à la ville d'en faire usage pour le temps de cette première exposition. Et puis il s'y est trouvé très bien, et il s'est dit, on reste. Et après quelques années, je ne me souviens pas exactement le temps que ça a pris, mais après quand même une sorte de bras de fer avec les autorités de l'époque, oui. et le CREAM alors naissant, accord a été pris pour fonctionner dès lors de manière pérenne. Mais vous voyez que l'histoire de la première occupation du bâtiment relève aussi de cette poétique et de cette politique
audace.
Et de cette audace des mondes fragiles qui rassemble en quelque sorte dans un même bouquet d'intentions ce que nous sommes en train d'inventer et en même temps de poursuivre.
Alors, Louis, pour trouver sa voix, ce qu'il avait à dire, à trouver son style, il a mis 19 ans. Donc pendant 19 ans, il est venu à l'atelier quotidiennement, et où je disais, mais oui, c'est super, mais tu peux aller plus loin, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus loin. Et son temps à lui, c'était 19 ans. Et ça, c'est important, quoi, la temporalité, c'est que chacun à son rythme pour arriver à faire les choses. Dans notre société, on n'a pas le temps. Nos enfants, à 3 mois, ils font le gribouillis, à 5 mois, ils doivent mettre les membres, et si à 10 mois, il n'y a pas le bonhomme entier, ça ne va pas. Enfin, hein, j'exagère, mais on est quand même dans une temporalité, en plus, qui est uniforme, quoi, alors qu'on est tous différents. Mais là, c'est ça qui était formidable avec Louis, c'est que finalement, je ne sais pas pourquoi, il devait avoir la foi hein, quand même, parce que venir pendant 19 ans et entendre un gars qui te dit c'est chouette, mais il faut supporter quand même.
C'est ça la difficulté aujourd'hui de penser un musée. C'est quand on le pense dans cette perspective de l'ouverture, on a envie de faire un non-musée, d'une certaine manière, tout en assumant la responsabilité d'être un musée. Et c'est sur cette ligne de tension-là qu'on essaye d'exister pour renouveler un peu, nous et bien d'autres, l'idée même du musée. Nous sommes sous ce que nous appelons le champignon, qui est cette colonne qui, comme l'architecte Aloïs le disait tout à l'heure, fait un peu figure de présentoir à gâteau, puisqu'il soutient une grande salle ronde qui est une de nos salles d'exposition. L'entrée du musée se fera en passant sous ce champignon, qui est en même temps comme un parapluie de protection, et qui répond, du point de vue formel, exactement à la présence du kiosque, qui est de l'autre côté du bâtiment. C'est une sorte d'écho, lui aussi historique, que les architectes ont voulu penser. Et puis, on voit tout en courbe, dans cette structure translucide, que je trouve très poétique, de polycarbonate, et qui, comme vous le voyez, aussitôt prend avec une sorte de grâce et de justesse spontanée les ombres des arbres qui s'y reflètent, les effets du soleil, et qui constitue la façade du bâtiment sous chacun de ses côtés. On pourra en faire le tour, chaque fois comme un véritable tableau. Vous venez de voir le vol d'un oiseau dont l'ombre se reproduit sur cette grande façade.
Hugues est très croyant, et donc il a commencé sa création il y a donc 27 ans, où c'était des scènes religieuses. Bon. Mais à l'époque, et toujours maintenant, c'était un monsieur très beau. Toujours maintenant. Donc il y avait une attirance quand même pour le côté féminin. Et après, il a totalement abandonné le côté religieux pour faire pendant 25 ans, je vais dire, des nus féminins.
Donc la façade extérieure est elle-même une sorte de tableau permanent et permettra d'assurer constamment ce contact que nous voulons entre le musée et son public, entre la ville, les œuvres qui sont exposées au musée, entre le lieu, une fois encore, et ce qu'il contient.
Et puis il y a 2 ans, je ne sais pas pourquoi, avec un courage assez étonnant, parce que c'était se remettre en question totalement, il est revenu sur des peintures religieuses. Mais c'était vachement compliqué, quoi, parce que c'est comme s'il recommençait la peinture à zéro. Et puis, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? Comment dynamiser ma toile? Comment faire les mises en page? Waouh, c'était vraiment très courageux, parce que pendant un an, une bonne année, ça a été un peu galère quand même.
Alors, l'intelligence des architectes aussi a été de ménager des ouvertures, des fenêtres, à la fois nombreuses et très intelligemment réparties. C'est-à-dire qu'elle donne chaque fois la possibilité de porter un regard à l'intérieur du musée, mais sans tout dévoiler. Vous voyez cette longue enfilade qui couvre à peu près toute la longueur de cette façade, de fenêtres très basses, et dont on peut imaginer qu'on s'agenouillerait volontiers pour deviner ce qu'il y a à l'intérieur du musée. Donc là aussi, créer, me semble-t-il, si c'est l'intention des architectes, mais je le crois, une sorte de relais entre le dedans et le dehors, comme si symboliquement le musée était comme un gant qui, par la lumière et par les regards qu'on pouvait porter sur lui, ne cessait de se tourner et de se retourner. Une grande fenêtre carrée, alors en hauteur, vers la fin de cette première façade, qui laisse voir, qui laisse apparaître un élément ancien de la structure, enfin du trinkhall moderniste des années 60, cette espèce de structure de plâtre, je crois, elle aussi très modeste et pompon, ou très Spirou et Fantasio, qui qualifie l'histoire du lieu et que le promeneur découvre comme une sorte d'énigme, elle aussi, qui me semble très, très, très judicieuse à manifester.
Ouais. Et puis ici, là, voilà, maintenant c'est reparti. Et c'est génial parce qu'il y a un musée qui vient de lui acheter 4 toiles. Donc ça, c'est magique parce que c'est des toiles, je pense, difficiles. Si vous mettez ça dans votre salon, c'est génial, mais ça prend tout. Vous ne pouvez pas mettre d'autres tableaux, vous ne pouvez rien mettre d'autre. Et donc j'ai toujours dit à Hugues, tu as un travail muséal. Mais il faut l'entendre, quoi, parce que ça veut dire je ne vends pas beaucoup, alors que d'autres vont vendre. Enfin, voilà, quoi. Après, on s'en fout, mais quand même, c'est une reconnaissance. Donc, le fait que le mois passé, il y ait un musée qui vienne et qui achète 4 toiles, c'est quand même très chouette, quoi. C'est motivant.
Voici donc cette grande salle, la principale salle d'exposition du musée, une surface environ de 170 mètres carrés, et qui, vous le voyez, n'est guère pourvue de murs traditionnels pour accrocher les œuvres. C'est le pari et le principe architectural qui ont guidé Aloïs et Brigitte, c'est de prévoir un système de cimaise mobile.
Carla Flange.
C'est un musée, comme Aloïs le disait tout à l'heure, un musée qui se veut ouvert. Et donc les architectes ont prévu un système de grandes cimaises mobiles qui permettront à chaque exposition de recomposer des géométries adaptées à ce que nous voulons faire. Soit un chemin, un labyrinthe, partitionner ce grand espace de près de 200 mètres carrés en différentes parties, en différents segments, et ce qui nous impose effectivement une forme de créativité scénographique dont on se réjouit vraiment, avec l'aide d'Aloïs et de Brigitte, d'éprouver les riches possibilités. Juste à côté, un espace beaucoup plus petit et lui confiné, que les architectes ont appelé la Black Box, qui est un espace lui de 25 mètres carrés, totalement fermé, et qui, répondant aux normes muséales les plus exigeantes en termes de lumière et de température, permettra d'accueillir certainement les œuvres les plus précieuses ou les plus fragiles, mais aussi, pourquoi pas, on y pense, certaines projections vidéo, ce genre de choses.
Cette black box, c'est une idée qui est venue, je ne sais plus à quel stade du projet,
assez tardivement.
En fait, la communauté française, évidemment, soumet les projets de musée à des normes très strictes, au niveau international, qu'on a respectées dans le projet. Mais à un moment donné, on a fait l'étude des machines de ventilation avec le bureau d'études, et on s'est dit, mais ce serait quand même intéressant d'informer le maître d'ouvrage et les utilisateurs de ce que ces machines consomment comme énergie et de ce que ça coûtera en termes de budget de fonctionnement annuel. Et donc on a calculé le coût du conditionnement d'air pour chacun des espaces du projet. On avait notre petite idée derrière la tête. On trouvait que l'application de ces normes à l'échelle de l'ensemble du musée et des espaces d'exposition temporaire était excessive quasiment, quoi. Enfin, hors ton.
Ben, à ce point dispendieuse, que ce qu'on pouvait craindre, c'est que, manquant de budget de fonctionnement, le musée aurait peut-être été tenté de couper tout.
Comme ça se passe et je dans pense certains que, musées qu'on
oui,
ne s'y
oui,
trompe pas.
Je pense que c'est quelque chose de très...
Ce serait contre-productif.
Oui.
Et donc on aura simplement proposé, on a dit, voilà, quel est le problème? Le problème, c'est à un moment donné de pouvoir accueillir certaines œuvres réellement très sensibles, très fragiles, sur papier, avec des dessins qui ne souffrent pas la lumière naturelle, qui doivent avoir une hygrométrie, une température constante. Et donc on a dit, et si on faisait un petit cabinet, une petite pièce, qui serait une pièce noire, en contraste avec l'ensemble du musée, qui est une pièce de lumière. Donc cette pièce noire permettrait aussi d'accueillir, mais en proportion limitée, certains travaux très fragiles. Et on s'est dit, mais tout compte fait, ça donne un type d'espace d'exposition en plus. Non seulement ça constitue une sorte de volume avec des parois dans ce grand espace libre de la salle du premier étage, mais en plus, à l'intérieur, on peut y déployer une scénographie, une atmosphère, un dispositif tout à fait particulier. Et il y aura une porte pour y entrer, une porte translucide. Donc il y aura vraiment ce geste d'aller dans cette pièce qui sera assez amusant, nous semble-t-il.
Qui pourra faire office un peu de cabinet de curiosité aussi, certaine manière.
Oui. Et c'est important. Et on a vu combien d'œuvres qui ont été brûlées dans les institutions. Vous savez, c'est tout bête, hein. Il faut changer la toiture. Enfin, j'en parle parce que je l'ai vécu. Il faut changer la toiture. Toutes les œuvres sont là. On demande à une personne de les mettre ailleurs. Ils se retrouvent devant des milliers de dessins. Bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et alors, ce qui est le plus fou, parce que là, c'est de nouveau cette intentionnalité de faire œuvre, c'est que les personnes qui ont mis le feu aux œuvres, c'est les personnes qui avaient fait les tableaux.
Mais rien qu'à l'étage, ici, on a donc trois lieux assez caractérisés pour exposer. On a 300 mètres carrés, la très grande salle qui se déploie sur l'ancienne toiture du bâtiment existant. Et puis, on a ce volume champignon, 100 mètres carrés. Et cette petite black box qui fait, elle fait 25 mètres carrés. Donc, trois façons d'exposer, trois lumières différentes.
Même si c'est mauvais, on ne peut pas quelque part oublier qu'on fait œuvre. Vous voyez, je ne parle pas de qualité, mais on sait qu'en faisant une tache sur la toile, on fait un geste plastique. Ce qui n'est pas forcément vrai ici, et c'est aussi intéressant.
Architecture, Liège, Paris d'Avrois, Matt Musée. Avec Brigitte Massard, Aloïs Beguin et Carla Plange. Et la voix de Bruno Gérard, interviewé à la Pommerée en 2017. Architecture, Matt Musée, par Thierry Junicot. Production, Fédération Wallonie-Bruxelles. Cellule architecture.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.